La CGPME au cœur des débats, en partenariat avec La Poste. La CGPME au cœur des débats, une émission de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, réalisée sur CFM Radio, animée par Rémi Toruella.
Nouvelle édition de la CGPME au cœur des débats avec ce mois-ci comme thème les jeunes chefs d'entreprise, les jeunes créateurs d'entreprise. L'adhérente du mois de la CGPME aujourd'hui c'est Julie Lafourcade, fromagère à Moissac. Elle est chef d'entreprise et sa fromagerie située sur la place du Cloître s'appelle Le Fromage Riz. Déjà de l'humour chez Julie Lafourcade, bonjour.
Oui, bonjour.
Avec nous autour de la table comme chaque fois, hein, Xavier Reinich, chargé de communication à la CGPME du Tarn-et-Garonne. Salut Xavier.
Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs.
Et merci toujours de procéder à la préparation hein, de cette émission une fois par mois. Alors, je rappelle le principe, l'adhérente du mois de la CGPME rencontre durant à peu près 40 minutes, hein, quelque chose comme ça, un invité. L'invité du mois de la CGPME aujourd'hui, c'est Vincent Coste. Il est directeur de la pépinière d'entreprise Novalia, pépinière d'entreprise située à Montauban, sur la place l'Esplanade des Fontaines. Et c'est la pépinière d'entreprise du Conseil général.
Oui, bonjour. Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien, merci.
Bon ben voilà, c'est vrai que vous êtes le candidat idéal pour répondre aux questions de la création d'entreprise des jeunes chefs d'entreprise du Tarn-et-Garonne.
Je sais pas si je suis le candidat idéal, en tout cas c'est vrai que on rencontre dans notre activité beaucoup de jeunes créateurs d'entreprise et donc on est à même d'en parler.
Alors si vous voulez, on va procéder en trois temps. D'abord, on va faire connaissance avec Julie Lafourcade, ensuite avec vous, Vincent Coste, et avec la pépinière d'entreprise. Et puis en suivant, eh bien, vous aurez sans doute du côté de la CGPME des questions à poser à Vincent Coste. Julie Lafourcade, alors, quel est votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené à ouvrir à Moissac, il y a quoi maintenant? Deux ans, même pas
hein? Deux ans, un an et demi, exactement.
Et demi.
Ouais, c'est tout nouveau.
Le fromagerie.
Eh ben, très sincèrement, il n'y avait rien qui m'a amené à ouvrir cette entreprise et à faire cette belle aventure. Donc moi, j'ai passé un bac général, économique et social, au lycée Jean de Prades. Ensuite, je me suis dirigée vers la fac de droit à Castelsarrasin, voilà. Mm-hmm. Après, je me suis dirigée vers la fac de droit à Toulouse, l'UT1, où j'ai passé ma licence de droit. Et comme j'étais passionnée de politique, j'ai voulu suivre un parcours en politique. Et donc, j'ai fait un an en master en sciences politiques. Après quoi, j'ai arrêté mes études, ça ne me plaisait plus. Je voyais plus vraiment... Il y avait des zones d'ombre, je voyais plus... ce que je voulais faire, la voie qui m'était destinée. Donc je me suis accordé six mois à ne rien faire, à réfléchir. Et grande idée comme ça, ça m'est arrivé tout d'un coup. Je me suis dit pourquoi pas créer une entreprise.
D'accord.
Voilà.
Alors, créer une entreprise, vous auriez pu créer une entreprise de vente de téléphonie. Hein,
ça, exactement.
Ça marche beaucoup.
Mon père est cuisinier quand même, faut le dire. Donc j'ai toujours évolué, si je puis le dire, dans la bonne bouffe, dans les bons produits. En étant étudiante à Toulouse, j'allais souvent à la fromagerie Xavier. Et donc, j'ai décidé...
Amatrice de fromage.
Voilà,
déjà.
C'est ça. J'ai décidé avec mon co-gérant, qui est aussi mon ami, de me lancer dans la fromagerie. Voilà, donc je suis allée voir Xavier un jour à Toulouse et je lui ai dit que je ne connaissais rien dans le fromage et que je voulais le représenter en Tarn-et-Garonne, avoir un contrat d'exclusivité. Et au bout de 2-3 mois, à force de parler, de négocier, j'ai eu un contrat de collaboration avec Xavier de Toulouse.
D'accord, voilà. Mais alors quand on ne connaît rien au fromage, on suit des stages.
J'ai suivi pendant un an de la formation dans le fromage chez Xavier. Voilà.
Donc maintenant, le fromage n'a plus aucun secret
voilà,
pour vous.
Vous posez toutes les questions, je suis incollable.
Ouais. Et...
Voilà.
Vous affinez également?
Donc Xavier affine, moi je reçois les fromages affinés, sauf sur certains fromages bien sûr, où on fait un petit peu d'affinage.
D'accord, donc c'est une franchise en fait, hein, c'est ça?
Pas tout à fait, j'ai un peu plus de liberté qu'une franchise.
D'accord.
J'aime mon indépendance.
Bon, alors, un an et demi d'ouverture, vous faites un petit bilan, là
Oui, assez positif. Quand on voit la conjoncture, la crise qu'il y a, les gens, comment ils en parlent un petit peu partout dans les médias. C'est vrai que j'ai commencé à avoir peur, surtout que j'ai eu l'obtention des crédits juste avant la crise. Et j'ai commencé vraiment à avoir peur quand j'ai vu cette grosse crise arriver. Ouais. Et finalement, le bilan est bon. Voilà. Ouais, je suis contente de moi. Quand je vois les chômages qu'il y a autour, les gens qui ne sont peut-être pas très contents dans leur travail, je suis fière d'avoir monté cette entreprise.
Voilà. Bon, comme on dit dans le métier, vous êtes en royal aussi là-bas, parce que cette place-là est très touristique, il y a énormément de passages, et c'est un lieu idéal pour monter une fromagerie gastronomique, on va dire. Hein,
voilà.
On en reparlera sans doute tout à l'heure avec Vincent Coste. C'est vrai que le cap à passer pour les jeunes créateurs d'entreprise, souvent on le dit, c'est 2 ans. Donc vous n'y êtes pas encore, mais vous l'appréhendez très sereinement, visiblement.
Très sereinement, oui.
Ouais. Vous avez d'autres objectifs derrière,
je sais pas. Oui, énormément.
Alors,
oui.
Qu'est-ce que c'est ?
On aimerait essayer de monter d'autres petites franchises, ce que vous appelez contrats de collaboration, notamment sur l'Allemagne. Voilà, l'Allemagne qui est un pays relativement grand, avec un pouvoir d'achat qui est un peu plus important qu'en France. Et comme mon co-gérant a vécu très longtemps en Allemagne, il serait la personne idéale pour nous représenter du côté de Hambourg et de Berlin.
Voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes derrière la caisse à la fromagerie, enfin aux fromageries à Moissac.
Voilà.
Si on se projette dans 7-8 ans, vous êtes chef d'entreprise derrière un bureau avec des magasins franchisés partout en Europe.
Voilà, et venir tous les mois sur CFM.
Ouais, ça marche. Gros contrat de pub sur CFM.
Exactement.
Je pense que
on peut commencer à négocier
Julie
les prix si vous voulez.
À qu'est-ce qu'on déguste, ça serait une invitée de...
Ah, mais on vous invitera dans une émission qui est faite pour vous, qui s'appelle Qu'est-ce qu'on déguste, le vendredi soir. Ça, c'est promis, ça marche.
Pas de problème.
Alors, en face de vous aujourd'hui, Julie Lafourcade. Attendez, avant de donner la parole à Vincent Coste, juste une dernière question. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir adhérente de la CGPME?
Ah. Dès les premiers mois d'ouverture, les problèmes ont commencé à pointer le bout de leur nez. Il y en avait déjà en amont qu'on avait réglé puisqu'on avait créé notre entreprise. Et puis, on se rend compte que c'est pas une manne facile d'être tous les jours chef d'entreprise. Et une amie à moi de la rue, une commerçante, m'a dit « Mais moi, j'appartiens à un petit syndicat qui est très sympa, très convivial, très solidaire, qui s'appelle la CGPME. Viens voir un soir comment ça se passe. » Et de suite, j'ai adhéré aux idées, c'est-à-dire qu'au-delà du travail d'un syndicat qui est d'aider les partenaires qui sont là, il y a vraiment un esprit de solidarité, de fraternité, on est ensemble, on essaye de s'épauler, on est tous dans le même bateau, on n'a pas les mêmes entreprises mais on a les mêmes problèmes, on est confrontés aux mêmes envies, aux mêmes espoirs, aux mêmes difficultés. Et si on peut essayer de se souder pour s'aider, on le fait et c'est ça qui est bien à la CGPME. Voilà.
Quand vous dites les problèmes sont arrivés dès les premiers 6 mois, quel genre de problème ?
Notamment la trésorerie, des problèmes de trésorerie après les obtentions de prêts, la trésorerie. Moi, c'est peut-être un cas particulier, j'avais signé donc mon obtention de crédit. Je l'ai eu que 6 mois après, puisque la banque n'avait pas de liquidité. Donc pendant 6 mois, il a fallu que je m'autofinance sur mes biens propres. Donc voilà.
Donc, et en quoi, là, par exemple, la CGPME vient en soutien ?
La CGPME a des médiateurs un peu dans plusieurs chambres et dans diverses banques, institutions. Et on a des gens qui sont là, qui prennent notre dossier, qui l'examinent et qui viennent avec nous à des rendez-vous devant les banquiers, qui nous aident à faire un peu plus de poids pour dire on a envie de ça et c'est maintenant qu'on le veut et comme ça parce qu'on est dans notre bon droit. Voilà.
Voilà, alors en face de vous, Julie Lafourcade, l'invité du mois, c'est Vincent Coste, donc directeur de la pépinière d'entreprise Novalia, jeune directeur aussi.
Oui.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Enfin, rebonjour. Quel est votre parcours à vous, Vincent Coste ?
Alors, je suis arrivé en Tarn-et-Garonne en 2002, après des études en finance, marketing et innovation. Et un an de travail dans une association à Toulouse qui s'occupait de transfert de technologie qui est l'incubateur Midi-Pyrénées. Concrètement, ça consiste à aider des jeunes doctorants, des jeunes chercheurs à créer leur entreprise. Et très vite à l'ADE, je me suis éclaté, si on peut dire.
ADE, Agence de Développement Économique.
Voilà, Agence de Développement Économique qui est une agence qui dépend du Conseil Général, qui gère Novalia 82. Et dans laquelle on a, j'allais dire, 3 métiers. Un premier qui est orienté vers les entreprises, pour les aider de façon individuelle et collective à travers soit un accompagnement du projet de l'entreprise, soit un accompagnement, une animation filière. On le fait sur l'aéronautique, sur l'agro, sur différentes thématiques. Notre deuxième métier, c'est l'aménagement du territoire. Là, aider à aménager les zones d'activité avec des collectivités locales. Et notre troisième métier, c'est la prospection, la communication. Donc tout ça concourt, j'allais dire, à entourer l'entreprise d'un certain nombre de services, à la fois directs et indirects, pour qu'elle soit bien sur le territoire et qu'elle s'implante bien sur le territoire. Et à Novalia 82, eh bien, Novalia 82 est une pépinière d'entreprise, c'est un outil qui s'inscrit dans ce dispositif-là, c'est-à-dire que le Conseil Général a organisé au cours de la vie d'une entreprise tout un tas de dispositifs qui permettent à l'entreprise d'avoir des aides, d'avoir un appui, d'avoir un accompagnement, un conseil en fonction des besoins. Voilà un peu ce qu'on fait à Novalia 82, à Novalia avec l'aspect hébergement en plus, c'est-à-dire qu'on accueille des jeunes chefs d'entreprise dans nos locaux, on leur offre une salle de réunion collective, des services, un suivi très personnalisé, des locaux adaptés au centre de Montauban.
Un secrétariat,
Un secrétariat, un service de fax, de téléphone, un espace reprographie, enfin un certain nombre de services qui permettent justement aux chefs d'entreprise de se débarrasser, j'allais dire, d'un certain nombre de soucis quotidiens pour se concentrer sur son projet, sur sa stratégie, sur ses contacts commerciaux, sur la mise en place de son activité industrielle. Et on a, au niveau de la pépinière, depuis 2003, puisque la pépinière existe depuis 2003, aidé un certain nombre de projets, comme l'implantation de l'entreprise, l'installation de l'entreprise Proftag à Montauban.
Qui fait beaucoup parler d'elle. Cette entreprise qui fait à partir de bulles à l'intérieur d'une résine, voilà. Une sorte de code-barre, hein, c'est ça?
Exactement.
Inviolable, voilà, le code-barre.
Inviolable. Et qui authentifie des objets, en particulier qui est utilisé dans, les grands domaines de vin pour certifier l'origine de leurs produits. Voilà, on a aussi accompagné plus récemment le projet Nutritis qui va bientôt gagner le territoire Moissaguet-Castel-Sarrazinois. On a dans nos murs à l'heure actuelle 12 projets d'entreprise, ça représente une quarantaine d'emplois. Certains sont très proches de la sortie, comme le projet Arkean Technologies. Enfin,
ouais. On reste combien de temps à peu près en moyenne dans une pépinière d'entreprise? Normalement, c'est 2 ans, c'est ça?
Voilà, c'est 2 ans renouvelables une fois.
Donc on peut rester 4 ans.
On peut rester 4 ans et pour accompagner l'entreprise, parce que parfois au bout des 4 ans, il y a encore des fragilités, on a mis en place un service d'hôtel d'entreprise très récemment. Qui cette fois est dépouillé des services opérationnels type secrétariat et autres, et qui permet à l'entreprise de rester dans le même périmètre en ayant certes une augmentation de loyer mais en bénéficiant quand même d'une continuité d'activité sans avoir à déménager, et ça peut durer 2 ans supplémentaires.
D'accord. Voilà. Alors la différence avec une coopérative d'entreprise comme celle qu'il y a à Saint-Antoine-Noble-Val qui s'appelle Ozon, dont on parlait sur cette antenne il y a très peu de temps, c'est que là, quand un chef d'entreprise vient créer son entreprise, il est déjà son propre chef d'entreprise, alors que dans une coopérative d'entreprise où il va s'essayer à son activité en étant salarié de la coopérative.
Exactement,
hein, c'est ça.
Exactement, tout à fait. Okay. C'est exactement la différence entre les deux. C'est-à-dire que d'un côté, on a une personne qui veut tester son concept et qui, pour éviter de prendre un trop grand risque sur sa situation personnelle, choisit le format salarial. Hein. Et de l'autre côté, nous, on accompagne des porteurs de projets qui, eux, ont déjà mûri leur idée, ont une idée de là où ils veulent aller assez précise et qui ont la capacité à prendre le risque, à la fois financier, mais aussi personnel, puisqu'ils vont, sans s'assurer de rémunération, consacrer du temps à cette activité. Et donc, ils vont passer un certain moment sans avoir de rentrée d'argent opérationnelle, puisque quand on se lance dans la création d'entreprise, on n'a pas des commandes immédiatement.
Depuis 2003, hein, vous m'avez dit que Novalia 82 existe. Vous avez une sorte de carnet de pourcentage de réussite au-delà des fameuses 2 années ou 4 années d'activité de l'entreprise?
Alors, aujourd'hui, à peu près 80% des projets qui sont sortis de Novalia sont encore en activité. Alors effectivement, il y a un taux d'échec qui peut être lié soit au fait que l'entreprise n'a pas été en mesure de passer le cap économique. Concrètement, quand on est en pépinière, on a des conditions économiques très avantageuses, en particulier au niveau des loyers. Il peut arriver que une entreprise qui
c'est
sort
de quel
de
ordre par exemple de quel ordre
le loyer d'un bureau d'à peu près 15 mètres carrés à Novalia s'élève à peu près 110 euros par mois, ce qui est très peu cher. Ouais. Hein. C'est vrai que nous on prend beaucoup d'attention à préparer la sortie de la pépinière de façon à ce que l'entreprise qui va être confrontée à une sorte de palier puisse le passer dans les meilleures conditions. Concrètement, quand vous allez chercher un bureau à Montauban, le prix peut être facilement du double. Donc on crée les conditions pour que le chef d'entreprise s'y prépare avec une montée progressive des loyers et avec surtout une préparation à la sortie. On anticipe de façon importante pour qu'il puisse choisir le local le plus adapté, le plus économiquement viable.
D'accord, j'imagine que les places sont chères. Quand un jeune créateur d'entreprise vient frapper à la porte de Novalia 82, il trouve que c'est complet pour le moment, puisqu'il y a 12 entreprises qui sont accueillies. Il y a de la demande jusqu'à quand? Quand est-ce qu'ils peuvent venir me voir?
On a effectivement cette problématique-là, c'est que les locaux sont pas extensibles de façon illimitée, et donc on a effectivement un certain nombre de demandes qui sont insatisfaites. Bon, toutefois, ce qu'il faut mettre en avant, c'est qu'il y a un turnover depuis 2003 qui s'est installé, les entreprises tournent et on a des locaux qui sont disponibles de façon assez régulière. Donc nous, lorsqu'on a un porteur de projet, on prépare avec lui un dossier d'intégration qui l'aide d'ailleurs à y voir un peu plus clair sur ce qu'il a envie de faire et on le présente à un comité d'agrément. Et c'est ce comité d'agrément qui est composé d'élus, de membres de des chambres consulaires et de responsables territoriaux qui assistent à une présentation par le créateur de 10 minutes à peu près et qui choisit. Voilà. Et donc il y a un dialogue qui s'instaure entre les élus et le créateur. Et évidemment, on ne peut pas satisfaire tout le monde parce qu'il n'y a pas des locaux illimités. Bon. On essaye de faire en sorte que lorsqu'on ne peut pas apporter une solution locaux, on continue à accompagner le projet pour le mieux, même si c'est vrai, des fois, certains porteurs de projets sont un peu déçus de cet état de fait. Alors je dois dire quand même qu'il y a, à l'heure actuelle, il y a une pépinière innovante et technologique qui est Novalia 82. Mmh. Il y a une deuxième pépinière qui est la pépinière Sud-Emergence à Alba Sud, à Montauban. Ouais. Et donc, sur le Tarn-et-Garonne, s'il n'y a pas de place à Novalia, il y a peut-être des places à Sud-Emergence. On est en bonne intelligence et en bonne collaboration avec eux. Donc, voilà.
Qui est la pépinière d'entreprise qui est plus gérée par la communauté.
La communauté d'agglomération de Montauban, tout à fait.
Alors. Vous êtes, je vous le rappelle, l'invité de la CGPME au cœur des débats. Et l'adhérente du mois, c'est Julie Lafourcade, qui, en compagnie de Xavier Reynich, maintenant, quelques questions à vous poser. Alors, Julie Lafourcade, je vois que vous avez une pleine page de questions. Vous vous êtes dit, tiens, je vais rencontrer Vincent Coste.
Voilà. Je me suis dit, je vais lui mettre des bâtons dans les roues, ouais. On va voir comment il se débrouille.
Un pot de banane.
Vous auriez aimé, vous, pouvoir utiliser un service comme
Novalia 82? Énormément, oui. Ouais. Bon, au vu de mon activité, c'était pas possible de mettre des fromages à Novalia, je suppose. Je le sentais pas bien. C'est vous qui allez sentir les odeurs de fromage. Mais c'est vrai que j'aurais eu une activité qui était un peu plus sur la recherche, le développement et notamment l'innovation. Je me serais tournée évidemment vers une pépinière. Ça me paraît être aujourd'hui le tremplin essentiel vers une pérennité de sa création d'entreprise, c'est sûr et certain.
Alors, ben voilà, vous l'avez en face de vous.
Donc moi, j'étais en face de moi, attention. La question qui me fait vraiment envie de te poser, c'est ça se base sur une enquête IFOP, tu sais, de 2006. Je ne veux pas être trop rébarbative par les chiffres, mais tu sais, quand on interroge un panel de 100 jeunes, il y en a 61 qui ont entre 18 et 31 ans et qui affirment avoir envie d'entreprendre. Ça, ça donne envie, c'est vrai, quand tu es jeune, d'entreprendre. Donc quand on voit ces chiffres, on est réjouis, on se dit, bon Dieu, ça y est, la reprise de l'entrepreneuriat en France va se faire, la croissance va se faire, puisque créer une entreprise, je le rappelle, au passage, c'est créer de la valeur ajoutée, c'est ce qui crée le PIB, le PNB, et au niveau social, pour l'être humain, c'est la réalisation de soi aussi, tu es devant des risques, tu as des envies, des espoirs, et il te faut y aller, donc c'est une bonne chose. Mais si on regarde d'un peu plus près, il n'y en a que 12% des jeunes qui, après un parcours professionnel ou universitaire, décident de se lancer, en fait. Alors pourquoi il y a cette distorsion?
Pourquoi il y a cette distorsion?
Voilà.
Je pense que c'est lié d'abord au risque qu'on prend quand on crée une entreprise. Aujourd'hui, on est dans une société, dans un contexte où les gens ont quand même la volonté de s'inscrire dans des choses assez durables par rapport à leur emploi. Et c'est vrai que quand on est dans une perspective de création d'entreprise, on prend un risque pour soi-même, financier, et de passer du temps sur des choses qui peuvent ne pas aboutir. Et c'est vrai que ça explique, à mon avis, en grande partie, le différentiel entre, si on me pose la question de façon générique, avoir mon projet à moi, ça m'intéresse, et m'investir dans ça, ça m'intéresse, parce que, et je crois que c'est une chance d'ailleurs qu'on ait une jeunesse qui soit comme ça, dans une volonté d'aller de l'avant. Et d'un autre côté, quand on fait la somme de ce que nécessite réellement une création d'entreprise, de l'engagement personnel que c'est pour le créateur, de l'engagement financier, ça peut rebuter un certain nombre de jeunes qui
vont finir par rentrer dans l'administration parce qu'on est sûr d'avoir un salaire à la fin du mois.
Voilà.
Qui vont finir par rentrer dans l'administration ou dans des entreprises. Je crois que, vous savez, dans une société, il faut des créateurs, mais il faut aussi des gens qui travaillent dans l'industrie, il faut des ingénieurs, il faut des gens qui travaillent dans l'administration, il faut de tout. Donc, on ne peut pas...
Il y a aussi beaucoup de gens qui ont parfois créé leur entreprise et qui, au bout de 2 ans, justement, se sont un peu frottés à ces risques, à ce stress que ça engendre, et qui finissent par rendre les clés de leur entreprise et repartir en tant que salarié dans le privé, parce qu'ils se disent, finalement, je préfère avoir un petit salaire, mais régulier, il est à moi, et puis j'ai pas le stress du patron. Parce que le stress du patron, c'est quand même quelque chose aussi d'important.
Tout à fait.
Moi, je pense de mon côté, qu'il y a vraiment 2 volets. Il y a le fait que, d'une part, tu as envie, au départ, d'entreprendre ou tu n'as pas envie d'entreprendre. Ça, c'est le choix de l'être humain et c'est inaliénable et c'est respectable pour chacun. Tu as le choix ou tu n'as pas le choix. À partir de là, il y a quelques autres idées qui se greffent, c'est-à-dire c'est la formation et c'est l'éducation, la famille et l'école notamment, qui sont 2 vecteurs d'éducation. Donc, c'est vrai que si on mettait un peu plus de programme dans le fait de dire c'est bien la création d'entreprise au sein de l'école, des universités, des parcours scolaires... Peut-être qu'on arriverait à donner aux gens l'envie d'entreprendre un peu plus. Et le second volet, c'est l'environnement. Quand tu as envie d'entreprendre, c'est le cas là, des chiffres, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'entreprendre, mais ils ne franchissent pas le cap. Pourquoi ? Parce qu'il y a un environnement en France qui fait que ce n'est pas l'optimum pour entreprendre. Alors, sous différents aspects, l'administration... Il le disait tout à l'heure lui-même en répondant à vos questions, s'il n'y avait pas les pépinières d'entreprise pour répondre à du secrétariat, pour faire des papiers, pour trouver un local qui ne soit pas trop cher, s'implanter dans un lieu où il y a quand même du passage, qui n'est pas trop loin d'une autoroute, dans le cas des entreprises et d'innovation et de recherche et développement. C'est mission impossible. Je veux dire, s'il n'y a pas les 2 chambres consulaires pour vous faire remplir les formulaires, vous êtes mais largués. Vous êtes largué. Il y a des formulaires qui se chevauchent, qui se suivent. Il faut attendre le petit A. Mais on peut remplir que le petit A si vous avez rempli le petit B. Mais le petit B dépend du petit C. C'est quelque chose de relativement complexe. Donc c'est vrai qu'heureusement qu'il y a justement les pépinières et les 2 chambres consulaires qui peuvent nous aider à remplir ces dossiers.
Moi, j'arrête pas d'entendre depuis des années que justement on va rendre ça beaucoup plus simple.
On va le lisser un peu.
Qu'il va y avoir.
Donc il y a eu des tentatives. Il y a eu des avancées, mais au-delà de l'administration, tu as tout le volet aussi qui est bancaire et fiscal, qui est très dur. Au niveau fiscal, on est quand même très taxé, hein, plus, plus on gagne de l'argent et plus on est taxé. Donc c'est vrai qu'on dirait que ça vient un peu de la culture française. C'est pas bien de gagner de l'argent, hein. On le voit comme quelque chose de mal, hein. Donc les charges sur les plus-values, il y a pas vraiment de politique en termes non plus de réemploi, de transition d'entreprise. C'est vraiment mal fait. Et quand on va se présenter aux banques, c'est souvent porte close, hein. C'est la banque qui est en faillite face aux jeunes créateurs d'entreprise. Au niveau des liquidités, de l'obtention des prêts, des autorisations de découvert, c'est horrible.
Vincent Coste, sur ce parcours du combattant, du jeune créateur d'entreprise face à l'administration.
Vous savez, je me méfie toujours de ces idées parfois un peu rapides, qui consistent à dire que l'administration est la cause de tous les maux. Moi, je ne partage pas ce point de vue. Effectivement, il y a parfois des choses qui sont à améliorer. L'État a quand même mis en place un certain nombre de dispositifs pour faciliter la vie des créateurs. Et nous, les collectivités, les consulaires, on travaille de façon très étroite pour justement faire en sorte que l'indispensable aspect administratif des choses, parce qu'à un moment, une entreprise, un entrepreneur doit s'acquitter d'un certain nombre de taxes, et ça, c'est pour le bien collectif. Bon, alors, il ne faut pas que ce soit trop lourd, certes, mais enfin, ça ne peut pas être abandonné de façon extrême. Donc nous, les collectivités, conseil général, conseil régional, les chambres consulaires, nous avons mis en place des dispositifs pour accompagner au mieux les créateurs. Alors, je voudrais revenir sur les deux points que tu as abordés. D'abord, tu soulignes effectivement que les jeunes ont la volonté de s'investir dans la création d'entreprises. Et tu mets en avant le fait que l'école, l'éducation, la culture soient quelque part pas suffisamment vecteurs de ces choses-là. Bon, il me semble qu'il y a des dispositifs qui existent pour justement faire en sorte que les jeunes soient dans une perspective de projet. Et qui est très similaire en termes de démarche à la création d'entreprise, hein. C'est-à-dire quand on s'investit dans un projet, on est confronté à peu près aux mêmes étapes. On doit trouver des financements, on doit définir son projet, on doit le présenter à des partenaires. Enfin, et je crois que ça, il y a quand même des efforts qui sont faits. Alors pour ce qui concerne le département, nous, on a clairement identifié cette question et on y travaille avec la commission éducation de la chambre de commerce de façon étroite. On y travaille sous deux axes. D'abord, on a mis en place un événement qui a lieu le 21 et 22 octobre, là, très prochainement, dans la cour de Novalia 82.
La fête des sciences.
Alors, c'est un événement qui, dans son nom, peut paraître décorrélé de l'aspect création d'entreprise, mais il faut bien comprendre que la fête des sciences, ce sont des chefs d'entreprise qui viennent présenter aux jeunes comment ils ont utilisé ce qu'ils avaient appris à l'école pour créer leur activité. Et je crois que c'est cette démarche-là qui, tout simplement, met du concret dans...
Pourquoi je fais des études ?
Voilà, pourquoi je fais des études, etc.
Quand je serai dans la vie active,
fais des études parce que j'aurai une activité et elle sera soit dans une entreprise sur une spécificité, ingénieur ou autre, soit pour mon propre bien. Et c'est pas quelque chose de vain, c'est pas pour intégrer l'administration, c'est parce que je m'engage pour mon futur quelque part, et ça c'est les jeunes sont mis dans cette perspective là donc je crois que bon, rien n'est parfait. Il y a effectivement peut-être des progrès à faire sur cet angle là mais enfin, il y a quand même la prise en compte très claire de cette problématique qui existe et sur laquelle on travaille avec les partenaires.
Sur ce que vous disiez, Julie Lafourcade, sur les entreprises sont surtaxées, est-ce qu'il n'y a pas des dispositifs justement qui exonèrent de charges les entreprises lors de la création pendant trois ans,
je dois dire, moi pour l'instant je ne veille pas, donc je parle pour mes collègues.
Parce que vous êtes quand même d'accord pour dire que si une entreprise s'installe là où il y a des infrastructures, par exemple une zone d'activité où on a mis le... il faut bien à un moment que ce soit financé.
Il y a quand même, comme disait Vincent, il ne faut pas être noircir non plus. Le tableau, il existe en France des institutions qui nous aident. Il existe aussi des programmes qui nous aident. Quand vous allez vous implanter en zone rurale, pendant, je crois, 10 ans, tu ne paies pas de taxes. Mmh. Il y a des choses très bien pour aussi amener des entreprises dans la ruralité. Moi, pendant 3 ans, je ne payais pas non plus de taxes. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on a un roulement au bout de 10 ans, on se dit, les plus-values, on est taxé, on est obligé soit d'aller à l'étranger ou de trouver d'autres solutions pour réinvestir. Ça ne donne pas envie, quoi. Quand on sait que... Sur ce qu'on va gagner, on va être taxé à 30-40%. On se dit...
Selon vous, il serait où, Julie Lafourcade, le seuil pour
30-35, ce serait déjà pas mal. Serait déjà pas mal. Et, parce que si ça permet à d'autres de venir, si ça permet à d'autres jeunes créateurs d'entreprises de venir sur ce marché-là, c'est en multipliant l'ensemble des créateurs d'entreprises qu'on fera véritablement la richesse. C'est pas avec 4 chefs d'entreprise qui vont payer 50% d'impôts qu'on fera la richesse du pays. À mon avis, c'est pas comme ça. Et puis, c'est pas non plus tout basé sur la taxation. C'est dire, si vous réemployez un senior dans la société, on pourra peut-être vous faire un abattement. Il y a d'autres possibilités aussi. C'est lisser les seuils. Hein. Quand on arrive à 50 employés et qu'on passe à 51, on passe à la tranche au-dessus. On pourrait essayer de faire un système intermédiaire. C'est pareil au niveau des revenus, de l'imposition. Il y a plein de choses à faire. Paris ne s'est pas fait un jour. Je comprends bien que tout n'est pas parfait et qu'on essaye d'aller de l'avant vers quelque chose de meilleur, mais je pense que plutôt que de faire plusieurs réformettes comme on fait un coup la pépinière, un coup la chambre d'industrie, un coup la chambre des métiers, il faudrait essayer d'en faire deux, trois, mais de très bonnes.
Il ne faut pas tout mélanger. Il y a des dispositifs qui dépendent de l'État, du gouvernement. Ce sont les dispositifs fiscaux en particulier. Et là, le local ne peut rien faire de particulier. Parce que c'est décidé par les députés, par nos représentants parlementaires, et que ça, c'est quelque chose sur lequel les collectivités locales ne peuvent rien faire. Et ensuite, l'action des collectivités locales, qui, elle, est très volontariste et orientée vers la facilité pour le créateur. Et je veux prendre un exemple. On avait effectivement... Avec la région, on a un travail partenarial depuis très longtemps, entre services économiques du département de la région. Ça se passe très bien. Et on avait identifié des difficultés. Qu'a-t-on fait ? En 2007, on a construit, en partenariat avec la région, ce qu'on appelle le schéma régional de développement économique. Ce schéma, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit... On va coordonner les choses entre nous. On va créer un comité technique pour que tous les projets puissent être aidés au mieux par tous les opérateurs présents sur la place. On va coordonner nos dossiers de demande de subvention. Concrètement, ça veut dire qu'un chef d'entreprise ou un créateur qui veut demander une subvention, il a exactement la même démarche que ce soit au conseil régional, au conseil général. Il a un dossier à faire, il a un processus qui est identique, et ça, je crois que ça va dans le sens de la facilité pour le créateur. Ça nous permet à nous de mieux suivre les projets, de mieux répartir les accompagnements.
Il y a des médiateurs en quelque sorte. Est-ce qu'il y a, aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui est à la recherche d'un emploi, à Pôle emploi, il a un interlocuteur. Est-ce que le chef d'entreprise aujourd'hui, il pourrait avoir un seul interlocuteur qui fasse le lien finalement entre la région, le département, les différentes...
Alors, il pourrait...
Ouais. Ça n'existe pas encore.
Même si aujourd'hui... Non, alors il faut...
Je vois Julie Lafourcade qui sourit. Donc.
J'aimerais prendre 5 minutes sur ce... un petit moment sur ce point-là. Parce que, effectivement, aujourd'hui, un chef d'entreprise... quand il veut obtenir de l'aide, il a des mains tendues de toutes parts. Il a la CGPME qui lui tend la main.
Il a son syndicat.
Il a son syndicat, donc. Il a les chambres consulaires, il a les collectivités locales, il a des associations Donc, il peut avoir le sentiment, ce chef d'entreprise, que le nombre de mains tendues complexifie la chose. Dans les faits, c'est pas vraiment le cas. Parce que quand même, les acteurs se parlent. Alors, il y a certes des efforts à faire. On y travaille. On a un groupe de travail là-dessus, avec en particulier les chambres consulaires, pour faire en sorte que sur tout le territoire, il y ait des dispositifs d'accompagnement coordonnés et qu'un porteur de projet soit identifié une fois qu'il est un référent. Mais c'est pas très simple à faire. Pourquoi ? Parce que chaque institution a ses propres problématiques, que ça pose la question aussi des outils de travail, en particulier les outils informatiques. Et donc, c'est quelque chose qui va voir le jour, à mon avis, mais qui, pour l'instant, est encore dans les têtes et dans les cartons. Cela dit, comme nous n'avons pas réussi à faire aboutir, pour l'instant, ce dispositif, nous parlons, nous échangeons l'information, et il faut bien comprendre qu'un créateur d'entreprise qui a un projet, il faut qu'il partage son information. Il ne peut pas la garder que pour lui, parce que sinon, on ne peut pas l'aider. Voilà. Donc, en réponse, c'est effectivement, on a toujours du progrès à faire, mais on a quand même anticipé cette problématique-là au niveau de la région et du département, et on a créé les conditions pour que le chef d'entreprise n'avait pas pour l'instant un référent unique, il y avait un dispositif de partage d'informations entre tous les acteurs auxquels peut être confronté le chef d'entreprise.
Encore une autre question, Julie Lafourcade ?
Oui, c'est pas vraiment une question, c'est plus un constat. Quand tu es déjà allé dans un lycée depuis longtemps, pas longtemps, ou dans un collège ou...
J'y vais.
Tu vas de temps en temps ?
J'y vais de temps en temps pour la bonne et simple raison que nous avons construit la fête de la science dont je vous parlais tout à l'heure avec le lycée Bourdelle et des professeurs du lycée Bourdelle. Les lycées agricoles de Capou et de Moissac, de Montauban et de Moissac. Donc on va leur rendre visite justement pour construire cet aspect pédagogique.
Qu'est-ce qu'ils te disent les jeunes, voilà, toi, je veux juste avoir quand tu y vas, que tu présentes ton projet, que tu expliques ce que c'est que la fête de la science, comment ils sont avec toi?
Ils sont
plutôt détachés, très intéressés, ils demandent, ils posent des questions, voilà, c'était juste pour avoir...
Ils sont très intéressés, ils viennent. L'an dernier, pour la fête de la science, on a eu 1800 personnes qui sont venues. Parmi les 1800 personnes, il y avait quand même 1500 collégiens et lycéens. Ils ont tous répondu à un petit test, ils ont tous compris l'enjeu. Et je crois que quand on les écoute, ils sont intéressés, parfois même émerveillés, de voir qu'en Tarn-et-Garonne, il y a des industries, des industriels, des entreprises de qualité, innovantes, et qu'ils ne le savaient pas. Parce qu'on ne voit pas un bâtiment dont on ne connaît pas l'activité, on ne voit pas ce qui se fait à l'intérieur. Et justement, là, les jeunes ont pu découvrir ça. Ils ont pu découvrir que quand on mange une pomme, il y a tout un système industriel pour photographier les pommes, les trier, mesurer le taux de sucre, etc. Et faire en sorte qu'on puisse créer des lots de pommes homogènes. Quand on va dans un supermarché, on achète une pomme, on la prend, on la croque, on ne se rend pas compte de tout le tissu industriel qu'il y a derrière. Alors je prends l'exemple de la pomme, je pourrais le prendre sur d'autres aspects, mais je crois qu'il faut vraiment qu'on ait conscience, et en particulier en Tarn-et-Garonne, que malgré...
Il y a une richesse.
Il y a une vraie richesse.
Je voudrais redonner la parole à Julie Lafourcade pour qu'elle aille au bout de sa pensée, parce que j'imagine que quand elle vous pose cette question, Vincent Coste, c'est que derrière, il y a une pensée. C'est quoi ? Comment se fait le lien, finalement, entre celui qui fait ses études et puis...
Cette entreprise
qui va pouvoir...
J'ai la chance d'aller presque tous les mois au lycée hôtelier faire des cours avec un professeur de cuisine, donc je pense qu'au niveau des branches professionnelles, il n'y a pas vraiment de soucis à se faire, puisqu'on met l'élève au centre même de son métier, de par sa formation. Donc il va aller en stage, il va aller en centre de formation, il va faire de l'alternance. Donc pour eux, je me dis, il n'y a pas vraiment de problème, parce que depuis qu'ils sont en seconde, depuis qu'ils sont en troisième même, ils sont au centre même de leur métier. Par contre, pour les voies générales, Je vois pas véritablement. Pour moi, c'est encore un peu flou. Je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés, il y a des gens qui sont très bons en mathématiques, en physique, et qui se disent, ah ben peut-être un jour, je serai dans la recherche et le développement. Mais c'est très flou encore pour eux. Ils se disent, bah, il faut que je fasse des études. Ils n'ont pas cet aspect de dire, bah, je vais essayer peut-être d'aller voir aux portes ouvertes de Novalia, voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Il n'y a pas vraiment une.
Enfin là, de manière, ils n'ont pas trop le choix, parce qu'ils y vont avec le prof. Hein,
oui, voilà, ils n'ont pas trop le choix, mais c'est vrai
Non, mais attends, toute la classe à Novalia, de toute manière, non
c'est pas... Pour certains, ça se passe comme ça, mais pour d'autres, ils ont la capacité de venir. Et je me souviens de la première année où il y avait un groupe de jeunes. On avait à l'époque, c'était il y a 2 ans maintenant, un atelier sur la robotique. Et cet atelier avait vraiment montré comment on pouvait commander un robot, etc. Ça avait eu du succès au-delà de. Alors après.
C'est une nouvelle technologie chez les jeunes, de toute manière, ça part.
Mais c'est bien de valoriser le tissu industriel ils le font. Je pense qu'il faut le développer encore plus parce que c'est une formidable chose ce qu'ils font. C'est parfait.
Redonnez-nous les dates là de
Alors c'est le 21 et 22 octobre à Novalia. Place des Fontaines.
On va arriver pas loin du terme de cette émission. Je voudrais qu'on tourne un peu la page là. Il y a deux choses que j'ai entendues dans ce que vient de dire Julie Lafourcade. Il y a l'idée de stage dans les entreprises. Est-ce que les entreprises aujourd'hui prennent facilement des stagiaires? Est-ce que un jeune stagiaire, que ce soit pour un CAP ou que ce soit même pour un ingénieur qui chercherait à se faire un premier contact avec le monde de l'entreprise, est-ce que les entreprises jouent le jeu aujourd'hui et prennent facilement des stagiaires?
J'ai le sentiment que oui. Et nous, parfois, nous sommes un intermédiaire au niveau de la pépinière et de l'agence de développement économique. Nous avons parfois des gens qui nous disent aidez-moi à trouver un stage, aidez-moi à trouver un contrat de professionnalisation. Et du côté des chefs d'entreprise, quand on le leur présente, qu'on leur propose, on a systématiquement un accueil favorable. Et je crois qu'aujourd'hui, j'en parlais d'ailleurs semaine dernière avec une chef d'entreprise du département qui est dans le domaine de l'industrie, il y a un besoin clair dans les entreprises d'emploi technologique, de faire connaître leur savoir-faire, de faire partager leur dynamique avec des jeunes publics. Donc la réponse à votre question, elle est du côté des entreprises, il ne me semble pas maintenant. Le syndicat CGPME peut parler peut-être de façon plus légitime que moi, mais il ne me semble pas, à moi personnellement, qu'il y ait de frein pour l'accueil des jeunes.
Je partage ton idée, c'est que moi, quand il y a un stagiaire qui se présente, il n'y a aucun problème, mais quand ça commence à être pour un BEP, CAP, qu'il faut rémunérer, à l'heure actuelle, moi, ça fait 2 ans, c'est impossible. Au niveau de la formation, c'est impossible. Par exemple, il y a énormément de jeunes sur Massa qui font partie de la maison familiale de formation. C'est 900 euros par mois. Il y en a 20% qui sont pris en charge par l'État. Je ne vois pas comment
Vous n'avez pas encore les moyens.
Voilà, moi je ne peux pas.
Un an et demi, c'est normal.
Voilà, mais c'est vrai que dès qu'on peut les aider, les jeunes, on le fait, c'est sûr.
Là, je vois qu'on entre sur un autre sujet qui sont les aides accordées aux entreprises qui accueillent des jeunes, que ce soit donc en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. L'apprentissage, je connais bien le sujet, moi, puisque j'ai formé une apprentie qui a fini donc l'an dernier. Et j'ai embrayé derrière immédiatement avec aujourd'hui un jeune en contrat de professionnalisation et j'ai pu juger de visu des aides qui étaient beaucoup moins conséquentes dans le second cas que dans le premier. Donc ça fait, c'est une piste et ça mériterait une émission entière pour débattre sur le sujet. Je voudrais revenir interpeller M. Coste sur un sujet d'actualité plutôt brûlant, puisque vous savez que nous sommes en pleine élection en chambre des métiers, enfin en tout cas, suivant la diffusion de l'émission, je rappelle que les élections seront closes mercredi 13, cachet de la poste faisant foi, et les deux listes ont bu, autour de la campagne, parler souvent d'un sujet qui nous tient à cœur, nous, petites entreprises et artisans, c'est le statut de l'auto-entrepreneur. Pourquoi je vous en parle? Parce que vous accueillez des jeunes chefs d'entreprise ou des créateurs. Est-ce que vous avez, lorsque le statut juridique n'est pas choisi, ça peut être le cas, il y a des gens qui viennent vous voir avant d'avoir déposé des statuts ou opté pour un système d'SARL ou d'entreprise unipersonnelle ou de travailleur indépendant. Quelle est la position de vous, pouvoir public, vis-à-vis de ce statut un peu qui, vous le savez, fait quand même polémique et débat, même si, alors ça, on l'a dit, nous, c'est GPME, Artisan Entrevenir, on est pour le fait que ça l'a pu susciter, développer l'envie d'entreprendre chez certains, en simplifiant ô combien les formalités, mais le revers de la médaille, c'est que pour les gens en place, pour les gens qui ont déjà, je dirais, qui, des statuts traditionnels, qui s'acquittent d'impôts et de taxes, est-ce qu'il n'y a pas là quand même une source de concurrence un petit peu déloyale, M. Coste? Qu'en pensez-vous?
Alors, effectivement, c'est un statut qui fait débat. Hein, qui fait débat. Le président de la Chambre des métiers sortant en a longuement parlé. Et je crois que sur ce statut, il faut être pragmatique. Il faut voir les limites du statut. Dès lors que vous dépassez 32 000 euros de chiffre d'affaires ou 80 000 si vous faites en commerce, vous êtes hors des clous pour bénéficier de ce statut. Donc déjà, ça limite un certain nombre de choses. Ensuite, c'est un statut qui n'est pas corrélé à un diplôme particulier et qui est dans un circuit, lorsqu'on dépose les statuts de son entreprise, un peu différent. Donc forcément, c'est difficile de le comparer avec une création d'entreprise, entreprise individuelle ou autre, devant une chambre des métiers ou une chambre de commerce. Voilà. Alors après, sur l'aspect positif des choses, parce qu'il y en a toujours un, le statut de l'auto-entrepreneur a conduit sur 2009 à générer un doublement de la création d'entreprises dans le Tarn-et-Garonne. On avait en 2008 à peu près 1300 à peu près créations d'entreprises sur l'année. En 2009, les chiffres de la PCE et de l'INSEE montrent que on en a 2400 qui sont liés au statut de l'auto-entrepreneur. Donc c'est quand même une souplesse dans laquelle les personnes qui avaient des projets ont pu s'engouffrer pour tester leur concept, pour peut-être aussi rendre légal quelque chose qu'ils faisaient de façon illégale. Bon, donc il y a du bon et du mauvais.
Moi, je crois que si ces auto-entrepreneurs basculent vers le statut de chef d'entreprise, d'ici voilà, quoi, deux ans, trois ans.
Tremplin, exactement. Ouais. Ça peut être un tremplin. Ouais. Après, c'est vrai que il faut pas que ça conduise à des dérives. Et en particulier, quand on met face à face un entrepreneur qui est artisan, par exemple, qui a passé un diplôme, qui a galéré pour monter son activité, qui a dû rentrer dans un circuit complexe, et quelqu'un qui fait sans diplôme à peu près la même activité, on comprend qu'il puisse y avoir
un ressenti
certain, et même que ça puisse être quelque chose de perçu comme de la concurrence un peu déloyale. Bon, moi je suis pas là pour juger la chose. Le gouvernement a jugé bon de mettre ça en place. Je constate que il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Et effectivement, comme vous le dites,
On peut venir en tant qu'auto-entrepreneur à Novalier 82.
Alors, on vient à Novalier 82 avec un projet. Et nous, on examine les projets en fonction de la typologie d'activité visée, du secteur d'activité, de leur caractère innovant et technologique. Et
peu importe le statut.
Le statut juridique.
Le statut nécessite un dépôt. Mais concrètement, je vais vous dire le fond de ma pensée claire. Lorsqu'on a un projet d'entreprise innovante, technologique ou industrielle, le statut de l'auto-entrepreneur n'est pas choisi. D'accord. Donc par défaut, si vous voulez. Bon, aujourd'hui, on n'a jamais été confronté à cette demande-là. Si on l'était, rien n'exclut qu'on accueille. Mais on regarderait clairement.
Vous aiguilleriez peut-être vers l'autre statut.
On regarderait clairement la nature de l'activité, si c'est un projet technologique, innovant, industriel, et on l'examinerait en fonction du potentiel.
Je pense que ça ne passerait pas quand même, parce que c'est vrai que de nos jours, un statut aussi innovant, 32 000 euros, 80 000 euros, ça paraît un peu difficile.
Toutes les entreprises de Novalia n'ont pas le statut genre d'entreprise innovante. Voilà. Et nous ne sommes pas les services du fisc. Voilà. Nous sommes des personnes volontaires pour aider les créateurs d'entreprises.
On arrive au terme de cette émission, je vous demande le mot de la fin, peut-être en commençant par les dames, Julie Lafourcade.
Je laisse la parole à monsieur, allez, on change de parole.
Alors, le mot de la fin.
Dis donc, la parité est très bien respectée.
Il est tabou, Vincent.
Moi, le mot de la fin, ça serait un mot très simple. Pour dire que nous sommes, nous, agences de développement économique, à la disposition des porteurs de projets, qu'il existe des dispositifs d'aide qui viennent du conseil régional ou du conseil général de Tarn-et-Garonne. La pépinière Novalia 82 en est un. Et que, donc, tous les porteurs de projets qui ont envie de s'engager dans la création d'entreprises, eh bien, on est à leur écoute. Et on est là pour les aider. Alors, peut-être qu'on pourra le faire de façon plus importante. Il y aura, bon, peut-être qu'on pourra les accueillir à Novalia, peut-être pas. Mais en tout cas, on est là pour les aider. Et je crois qu'on est dans un département où, effectivement, les choses ont été relativement bien faites. On se parle et... Voilà, donc on peut-être dire en mot de la fin aussi que si les auditeurs veulent participer à la fête de la science à Novalia 82 et découvrir justement toutes ces technologies, les entreprises de Novalia et du département qui vont illustrer le thème de la vie d'une pomme, qui est une vraie industrie, ben ils sont le bienvenu le 21 et 22 octobre. Voilà.
Merci bien, donc Vincent Coste. Merci, Julie.
Ben, merci à vous, c'était très agréable bon, pour la première. Voilà.
Ben, vous allez revenir à CFM parce qu'on va vous inviter, mais dans une autre émission.
Hein, émission... C'était mon anniversaire, donc c'est un super cadeau d'anniversaire.
C'est vrai
à la radio, oui.
Bon anniversaire. Merci. Combien vous faites 20
25,
ans
25.
Ben, normal.
Et nous avons des recueils de choc là, c'est bien, quand même.
Merci à toi Xavier Reinisch.
Merci Vincent Coste d'avoir accepté notre invitation. Et merci bien sûr à Julie qui prend sur sa journée de congé et sur son anniversaire en plus pour venir enregistrer l'émission. Et puis merci à toute l'équipe de CFM, Aurélien.
Je voulais rassurer les auditeurs, on n'a pas tapé Vincent Coste, il est en
il est encore en vie, Madame
là,
Coste,
il va bien,
je vous rassure,
bon.
Vincent sera là à midi pour manger.
Terrible. C'est terrible que ce soit les femmes qui parlent de violence. Vraiment,
terrible.
La parité est... tu me laisses conclure avant toi, c'est... Bon, voilà.
Ouais,
mais je ne craignais pas d'être tapé
ah bon,
ce soir.
J'étais vu sourciller à un moment donné.
Non.
Merci à vous en tout cas.
Quand on a une activité qui est justifiée et qu'on pense légitime, eh bien on est droit et on ne craint pas la critique.
Merci Vincent Coste, directeur de la pépinière d'entreprise Novalia 82. À la prochaine.
La CGPME au cœur des débats. En partenariat avec La Poste. La CGPME au cœur des débats, une émission de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, réalisée sur CFM Radio, animée par Rémi Toroella.